dire que ce qui vous attend, c'est, ça peut être à la fois quelque chose de, ça va être quelque chose de très dur, mais de très beau si vous le réussissez. La seule façon de le réussir, c'est que en fait vous êtes rentré en guerre aujourd'hui. C'est pas simplement une lutte, c'est la guerre. Ils vont essayer de vous faire croire que vous coûtez trop cher. On vous explique que si vous êtes dehors, c'est à cause du coût du travail. Quelle belle blague! Depuis quand les ouvriers coûtent de l'argent au patron?
Protéger le climat et pas le capital! Protéger le climat et pas le capital! Protéger le climat et pas le capital! Protéger le climat et pas le capital!
Le problème, c'est que on a une politique qui est décalée sur ce qu'est la société réelle, quoi. Enfin, la société de la rue, la société du quartier, la société de la ville. Ouais, c'est sûr, j'ai fait passer des gens, mais moi, je m'en fous de leur loi. Enfin, c'est pas que je m'en fous de leur loi, c'est que je vais pas demander les papiers aux gens de savoir s'ils ont leurs papiers, ils ont pas leurs papiers. Si la loi, elle, c'est ça, ben, il faut changer les lois, puis c'est tout, quoi.
Allez, bonsoir, c'est les Régors. Chaque semaine, sur l'écho du Garrigue à Montpellier, Canal Sud à Toulouse, et bien évidemment, Radio Primitive sur Reims, où cette émission est réalisée. Les Régors, une parole anarchiste communiste.
Alors, ça me permet quand même d'introduire une notion qui me semble importante dans ma distinction historique entre les formes de résistance au travail d'avant des ouvriers qualifiés d'autrefois, et puis ce qui est apparu dans les années 68. Je pense que non seulement le contexte est différent, mais ça fait que les pratiques elles-mêmes sont différentes. Le sabotage devient un sabotage... je m'en foutiste, c'est-à-dire c'est l'immense indiscipline qui a régné dans les usines italiennes, par exemple, mais quand on lit des descriptions de cette époque, c'est inimaginable. On ne peut pas imaginer que quelque chose qui soit même faiblement de ce type-là puisse exister aujourd'hui. Et je ne sais pas s'il faut l'attendre. C'est une autre question qu'on peut discuter une autre fois. Mais par exemple, dans les usines italiennes, il y avait... des courses de Fenwick, les gars arrivaient le matin avec un commerce de journaux et de croissants et de café. Donc t'imagines l'ambiance qu'il y avait le long de la chaîne, les gens entraient, sortaient du boulot, et puis de s'engager, se désengager de la chaîne pour aller voir les journaux et manger un croissant. Il y avait, paraît-il, des courses de Fenwick, je l'ai déjà dit, je sais plus, des courses de Fenwick dans les allées. Ils arrivaient à faire monter des Fenwick à 60 à l'heure, je me demande comment, enfin c'est ce que j'ai lu. Et qu'ils faisaient des cortèges internes pour un oui ou pour un non, que les départements étaient, les différents départements de la fabrication, je parle surtout de Mirafiori, là, étaient séparés les uns des autres par des portes attachées, fermées, et que les cortèges internes arrivaient et défonçaient les portes et allaient entrer dans les ateliers d'à côté pour foutre la merde et engager les autres à venir avec. Et pour engager les autres avec, ils utilisaient des cordes. Alors, les mecs tiraient une corde, et puis, quand un mec ne voulait pas venir, ils allaient le prendre à son poste, et ils le tiraient avec la corde. Et puis, ça faisait, les contremaîtres ne pouvaient plus rien dire. Et les ateliers étaient vraiment ingouvernables. Donc, il y a eu des chutes de productivité importantes. Les syndicats passaient des accords avec les patrons. Les patrons disaient, bon, d'accord, on vous donne ceci. Alors, ce qu'ils avaient demandé, dans ce que j'ai vu, c'est qu'ils demandaient à être associés au projet d'investissement de la boîte. Ils voulaient savoir où la boîte allait investir, comment elle allait investir, pour, je suppose, pour être associé à l'embauche des gens qui allaient venir travailler sur les nouvelles machines, je ne sais pas quoi. Et donc les syndicats disaient, oui, d'accord, on s'engage, vous nous donnez ça, et nous on s'engage à faire travailler les gars, à faire régner la discipline, mais ils n'y arrivaient pas. Ils n'y arrivaient pas, et ça a duré... jusqu'au milieu des années 70.
Jusque 77 peut-être ?
Alors, il y a eu une grande grève terminale en 80.
À Fiat. Ouais.
À Fiat. Et ça, la défaite de cette grève, qui a duré, je crois, plusieurs semaines, a été fatale. Enfin, ça a marqué le tournant. Mais à un niveau mondial, le tournant se situe au milieu des années 70. Aux États-Unis, on dit vers 75.
Qui est lié aussi à la crise du capitalisme fordiste.
Ah ben, c'est-à-dire, l'indiscipline était devenue telle que et les salaires élevés, parce que c'est oui, aussi c'est un truc caractéristique, c'est que dans le travail à la chaîne, le terrible, ce sont les conditions de travail. L'ennui et la fatigue, les troubles musculo-squelettiques et des trucs comme ça, c'est des trucs qui sont connus. Mais les patrons ne peuvent rien faire contre ça. Il y a bien des comités d'hygiène et de sécurité, mais ça ne sert pas à grand-chose. Et historiquement, les patrons ont toujours fait qu'ils ont donné des sous. Ils ont augmenté les salaires. Ça s'est appelé les partages de gains de productivité. Vous continuez à marner à la chaîne et nous, on vous donne un peu d'argent en plus. Donc, les salaires étaient relativement bons. On aura peut-être l'occasion d'en reparler. Mais les gens...
Mais à un moment, il y a eu ce que tu expliques dans ta brochure, c'est qu'il y a quand même, à partir de la fin des années 60, les gains de productivité sont... Enfin, l'augmentation de la productivité... Enfin, disons, les immenses réserves de productivité qui ont été conquises, entre guillemets, avec... la généralisation du taylorisme et surtout du fordisme après 1945, notamment en France, commence à s'épuiser. Ça plafonne. Les taux de profit, du coup, commencent à stagner. Il commence peut-être éventuellement à y avoir le début les prémices d'une crise de surproduction, etc., etc. Et du coup, va y avoir une intensification, ce que t'expliques, une espèce d'intensification de l'exploitation, et c'est aussi, enfin, la révolte des OS, c'est du coup, ils ont encore des réserves, donc ils ont des hauts salaires, donc ils peuvent se permettre de résister, et d'un autre côté, l'exploitation étant montée d'un cran, du coup, ils supportent plus, et du coup, ça va être ça le moteur historique un petit peu de l'anti-travail.
Il y avait une pratique aux États-Unis que j'ai vu repérer dans deux usines différentes à deux dates différentes. Je ne sais pas si ça existait ailleurs, qui s'appelle le doubling up et qui consiste à deux ouvriers successifs dans la chaîne font le travail l'un de l'autre en plus du leur. Donc pendant ce temps-là, un des deux peut se reposer et l'autre travaille double vite. Ce qui veut dire qu'il y avait encore des réserves, hein, mais que les ouvriers ne voulaient pas les donner. Ils les prenaient pour eux. Et ça c'est vraiment typique de ce qui va se passer après. Après les années, donc à partir des années 80, ce genre de combine qui se faisait, qui ne pouvait pas se faire sans l'accord et au vu du contremaître, qui savait bien qu'il fallait laisser ça pour avoir la paix. Donc, dans les souvenirs de Ben Harper, il arrivait 4 heures en retard et l'autre partait 4 heures en avance. Et chacun faisait double boulot pendant son temps, tu vois. C'est un truc... ça veut dire qu'il y avait quand même de la marge. Hein.
C'est ça. Et donc, en fait, quand on parle de crise du fordisme, c'est aussi le fait qu'à un moment, et ça, je pense que c'est important, effectivement, de le prendre en compte, qu'il y avait encore des réserves de productivité, mais elle était limitée par le fait que les gens n'en pouvaient plus, par les luttes.
Par les luttes, ben c'est ça.
Par la résistance.
Oui, par la résistance au travail, et donc par aussi beaucoup d'actes de sabotage. Je ne parle pas de Lordstown, de tous ces trucs-là qui sont connus. Et j'en arrive donc au deuxième aspect de ce qui est caractéristique de l'absenté, des pratiques de résistance au travail qui deviennent anti-travail dans la conjoncture fordiste, ou plutôt crise du fordisme, c'est, en ce qui concerne l'absentéisme, l'apparition de l'absentéisme de grève. Voilà, ce dont on parlait à propos de mai 68. Déjà en 37, dans les usines américaines, les usines étaient désertes pendant les fameuses occupations d'usines qui ont forcer les patrons à admettre la présence des syndicats dans les ateliers. Cette lutte a été menée par les syndicats, pour les syndicats, et pas beaucoup avec l'aide des ouvriers. C'est-à-dire que les syndicats se plaignaient que les ouvriers ne venaient pas occuper. J'ai lu les histoires d'une usine à Détroit où... il y avait, je ne sais plus, 10 000 ou 15 000 ouvriers. Il y en avait 2 000 qui venaient de temps en temps, mais pour bouffer, parce qu'il y avait une grande cantine. Mais sinon, les syndicats étaient obligés de publier des journaux, des articles dans les journaux pour dire aux ouvriers de venir et d'expliquer à leurs femmes qu'on avait besoin d'eux à l'usine et pas à la maison. Alors, qu'est-ce qu'ils faisaient à la maison? Est-ce qu'ils repeignaient la cuisine? Je ne sais pas. Mais enfin, ils préféraient être ailleurs qu'à l'usine, de toute façon. Je pense que l'absentéisme de grève, c'est comme ça que j'ai appelé ce comportement, l'absentéisme de grève, le refus de participer aux occupations, est un signal très important qu'on n'a pas vraiment repéré à l'époque, en mai 68. En mai 68, nous, on a surtout repéré, en France, la révolte contre la reprise du travail, qui a été très, très forte et qui a amené à des batailles rangées, qui ont fait des morts, notamment chez Renault et chez Peugeot.
Oui, à Flins.
À Flins, oui. À Flins, le type qui est décédé, c'était un jeune qui n'était pas de l'usine, c'était un militant. Mais à Peugeot, à Sochaux,
ah oui, Sochaux,
ça a été un truc, une bataille vraiment impressionnante, parce que il y a eu toutes sortes de tergiversations, reprise du travail par reprise du travail, vote bidonné, vote pas bidonné, par les patrons, par les syndicats. Je passe sur les détails, mais arrive un matin où le travail... Ou alors, il y a une reprise du travail, voilà. Les ouvriers de la nuit y sont, et puis ils arrêtent de travailler, et ils déclarent que l'usine est de nouveau occupée. Pendant ce temps-là, les CRS arrivent, se mettent devant l'usine avec plein de camions, mais par derrière, il y en a d'autres qui rentrent et qui font un carnage dans l'usine. Mais c'était au moment où les bus de l'équipe de jour arrivaient. Et quand les gars qui étaient prêts à travailler, tu vois, qui venaient pour le boulot, et quand ils ont vu que c'était la bagarre de nouveau, ils sont immédiatement entrés dans la bagarre aussi. Et ça a été une bataille qui a duré toute la journée et où la police a tué deux personnes.
Et d'ailleurs, c'est intéressant quand tu parlais des reprises de grève bidonnées. Tu donnes des exemples dans ta brochure sur mai 68 qui sont très rigolotes. Dans ta brochure, c'est les grèves anti-travail où il y a 80% de gens qui sont contre la reprise du travail et le bureaucrate syndical annonce à l'unanimité quasiment, c'est la reprise du travail.
Ce sont les pratiques démocratiques des syndicats, c'est classique. Hein. C'est vraiment, depuis, on a vu ça, c'était très classique. Essayons de résumer sur les années 68. Il y a une pratique du sabotage qui perd tout respect de l'outil de production, qui est totalement je m'en foutiste, qui fait régner un degré d'indiscipline qui est inimaginable dans une usine Fordisée, qui n'avait jamais eu lieu avant, qui n'a jamais eu lieu depuis, premièrement. Deuxièmement, un absentéisme massif, absentéisme en général. Hein. Chez Fiat, au début des années 70, un taux d'absent de 25%, c'était pas admis, mais c'était assez ordinaire. C'est-à-dire que tu arrives le matin, il manque un quart des ouvriers, tu vois. Ça fait quand même du monde. Hein. Et puis alors, je pense encore plus caractéristique, l'absentéisme de grève. Les ouvriers ne sont pas intéressés par leur usine, ne sont pas intéressés à en prendre possession. Il y a une grève qui peut poser question, c'est la fameuse, ce qu'on appelle l'occupation de Mirafiori. En 73, oui. Mais moi, je pense que ce n'est pas une occupation. On peut vite raconter l'histoire. Il y avait des réunions tout le temps pour organiser tel type de lutte, tel autre type de lutte. Et dans une réunion où, par hasard apparemment, il n'y avait aucun syndicaliste, est apparue l'idée de bloquer le portail qui était le plus proche de leur atelier. Il faut voir, c'était des réunions parcellaires, hein, parce que Mirafiori, c'était 40 000 bonhommes à l'époque. Et donc, les gens sont d'accord et ils bloquent d'abord pendant une heure. Ils arrivent à bloquer l'entrée et la sortie des camions et des gens pendant une heure. Et puis, il y a un week-end, je suppose qu'ils ont discuté, et le lundi matin, ils recommencent à bloquer. Et là, ils sont arrivés à bloquer pendant pratiquement 48 heures l'ensemble du site. Et c'est donc énorme. Hein, c'est, je ne sais plus, 21 portes, je crois, où plus aucun camion n'entrait ni ne sortait. Et c'est ça qu'on appelle l'occupation de Mirafiori. En fait, c'est un blocage plutôt, parce que pendant ce temps-là, je n'ai vu nulle part que les gars, par exemple, aller entretenir les machines. Jamais de la vie. Alors ça, les occupations avec entretien des machines, c'est aussi un truc qui n'existe pas dans les révoltes des OS. Et donc, je pense que c'était plutôt des précurseurs de ce qu'on appelle maintenant des blocages qu'une occupation.
Je voudrais juste lire deux citations qui sont, alors là, pour le coup, qui sont plus, là, disons, là, l'émanation théorique un petit peu de l'anti-travail de l'autonomie italienne. Donc, la première citation, c'est l'Assemblée autonome de Porto Marghera en 1974, qui est citée dans Autonomie Italie des années 70 de Marcello Tari. Le travail n'est pas une façon de vivre, mais l'obligation de se vendre pour vivre. Et c'est en luttant contre le travail, contre cette vente forcée d'eux-mêmes, les ouvriers, qu'ils se heurtent aux règles de la société. Et c'est en luttant pour travailler moins, pour ne plus se laisser empoisonner par le travail, qu'ils luttent aussi contre la nocivité. Car il est nocif de se lever tous les matins pour aller travailler, il est nocif de suivre les rythmes, les modes de la production, il est nocif de faire les roulements, il est nocif de rentrer chez soi avec un travail qui te contraint le lendemain à rentrer, de retourner à l'usine. Et alors, un niveau plus théorique, dans l'éditorial du supplément au numéro 15 de Rosso, donc qui est une revue de l'autonomie italienne, en mai 1975, on a « Le communisme n'est pas la lutte pour un autre travail, il est lutte pour l'abolition du travail. Le prolétaire qui lutte, il commence toujours plus tôt, c'est un rebelle avant de devenir un travailleur, car la taupe révolutionnaire est à l'œuvre dans tous les champs de lutte de la famille au quartier et à l'école. » Bon, je ne sais pas si on a besoin de commenter tellement ces citations, mais c'est intéressant aussi de voir que les... Pour l'autonomie italienne, je pense, au moins, je pense que peut-être presque ça lui est spécifique, il y a des pratiques d'anti-travail qui sont connectées aussi à, voilà, à une espèce d'effervescence où la critique du travail, capitaliste, a une certaine importance dans les assemblées. Après c'est aussi théorisé par cette espèce de d'ovni théorique un peu spécifique qui est l'autonomie italienne où on trouve un peu de tout mais où on n'est plus vraiment dans le marxisme traditionnel, on est dans une forme un peu spécifique.
Pour conclure provisoirement sur ces luttes des années 68, il faut voir qu'elles ont été très efficaces en matière de lutte contre les patrons. Elles n'ont pas fait la révolution, bien sûr, mais si on regarde ce que les ouvriers, ce que les patrons ont dû concéder au milieu des années 70, chez Fiat, par exemple, des fortes hausses de salaire. Chaque changement de poste devait être discuté entre la direction et les salariés. Donc vous imaginez, hein, si tu prends Marcel et que tu veux le mettre à la place de Robert, et inversement, il faut que ça se discute, alors que c'est des travaux qui n'ont pratiquement pas de qualification. Donc, c'est une complication inutile. Ils ont dû concéder, les patrons, la baisse de la durée du travail, des heures payées pour les réunions syndicales, 4 délégués pour 1000 travailleurs. Donc, pour 40 000 travailleurs, vous calculez, ça fait 160 délégués. Que la localisation de tous les investissements d'agrandissement des capacités de production de Fiat soit localisée dans le sud de l'Italie. Autrement dit, pas à l'étranger. Et que les salaires du Nord et que les salaires soient alignés, pardon, les salaires du Sud soient alignés sur les salaires du Nord. À la même époque, Renault avait dû concéder des concessions similaires, des fortes hausses de salaire, la suppression du salaire au poste, la création d'une nouvelle catégorie professionnelle qui s'appelle professionnel de fabrication, qui est donc sans doute un peu au-dessus d'OS. Une mensualisation générale et quelques tentatives de réorganisation du travail en groupe semi-autonome, mais ça n'a rien donné, on ne s'en attend pas du tout, on va sans doute en reparler maintenant.
Eh bien avant de passer au post-fordisme, on va faire une petite pause musicale.
Thank you. Le bus vient de le déposer. Il pointe et ne reverra le jour qu'avec la rosée. D'ailleurs, l'odeur lui donne déjà la nausée. Il rentre dans le vestiaire, défait le cadenas ou son casier, pose le gueuse du casse-dalle, enfile sa blouse et s'assied. On lève ses chaussures, met les chaussures de sécurité, prend ses gants, son cutter, quelques pièces pour le café. Il regarde l'heure, plus que 5 minutes avant de commencer. Il referme à clé, gavé d'avance, traîne qui pensait. Puis pas à pas, se dirige lentement vers sa machine. Regarde la mine des autres, fatiguée mais contente, quitter l'usine. Écoute les consignes du gars de l'équipe précédente. S'il y a rien, c'est bon signe, la nuit sera moins fatigante. 21h pile, le gars lui souhaite bon courage. Ramasse ses affaires et file, le v'là face à l'ouvrage. Pas le temps de s'installer, deux pièces à contrôler. À emballer vite fait avant que deux autres prennent le relais. Couper, séparer, jeter. Couper, séparer, jeter. Couper, séparer, jeter, c'est ça le boulot. Couper, séparer, jeter toute sa vie. Pour lui, le compte à rebours s'est enclenché. À peine le plancher foulé, 8 heures à tenir et pas question de flancher. Sinon c'est la porte. Les gars comme lui, y'en a à l'appel, profession, OS, comme il les appelle, dans les boîtes d'intérim, ouvriers spécialisés, ferme là et trim, l'exploitation est officialisée. Subventionné par l'État, c'est sûr que ça fait cogiter. Façon lui fait que ça de cogiter, même agité, pense à tout pour s'évader. Vois ses gosses gambader, se rappelle du week-end dernier, les conneries du JT, merde descend vite fait sur terre. Son chef l'interpelle, à défaut de personnel, lui file du taf supplémentaire. A envie de s'occuper de son cas, lui refaire la déco comme celui qui lui a fait le contrat il y a 3 mois chez Adeco. Maintenant ça lui fait de presse, plus de stress, il galope de poste à poste avec cette cadence qui l'oppresse, l'horloge qui l'agresse, il n'attend qu'une chose, 1h30, que vienne son heure de pause. Couper, séparer, jeter. Couper, séparer, jeter. Couper, séparer, jeter, c'est ça le boulot. Couper, séparer, jeter toute sa vie. Que la dernière moulée, on vient le remplacer. Quitte enfin l'atelier, t-shirt mouillé, dos cassé. Grimpe les escaliers, va pouvoir pisser. Se laver les mains, fissa avant de pouvoir les crailler. Dans le local, qui est tellement sale. Quand en normal, ça aurait dû déclencher une lutte syndicale, mais que dalle. Depuis le dernier plan social, peur d'espérer mieux. On a vu à quoi ça mène de l'ouvrir dans cette PME. Ça parle PMU à côté de lui. En face, les vieux un peu émus rêvent d'une issue pour avoir ce qu'ils n'ont jamais eu. Deux, trois conneries de sortie, dans 10 minutes c'est reparti. Fini sa gamelle, vite pour fumer la camelle, le cul posé sur le quai dehors. Son seul plaisir, apprécier le calme de la ville qui dort. Avant de reprendre l'effort, il écrase son mégo, rentre croise aussitôt. Son chef qui râle pour la minute de pause en trop. Le v'là nouveau en trop de moules qui s'ouvre et se referme chaque 30 secondes chrono. Éjecter une pièce qu'il faut couper, séparer, jeter, poser dans le chariot. Et ouais, la nuit, le jour, ici, c'est ça le boulot. Couper, séparer, jeter. Couper, séparer, jeter. Couper, séparer, jeter, c'est ça le boulot. Couper, séparer, jeter toute sa vie. Couper, séparer, jeter. Couper, séparer, jeter. Couper, séparer, jeter, c'est ça le boulot. Couper, séparer, jeter toute sa vie.
Et donc nous sommes sur Radio Libertaire, la radio sans dieu, sans maître et sans publicité, pour une émission de Sortir du capitalisme, consacrée aujourd'hui à une histoire des résistances au travail et de l'anti-travail au cours des 2 derniers siècles. Nous sommes toujours avec Bruno Astarian, et nous avons fini avec l'anti-travail des années 68, qui était en réaction à l'organisation scientifique du travail, au taylorisme, au fordisme, et à sa dynamique des années, disons, à partir de la deuxième moitié des années 60. Alors maintenant, on va parler du post-fordisme, donc de la restructuration du procès de travail, hein, qui s'insère dans une espèce de crise latente, longue, du capitalisme fordiste et même du capitalisme en général. On a consacré d'autres émissions là-dessus, à la crise du capitalisme, on ne revient pas là-dessus. Donc est-ce que tu peux nous parler justement de cette restructuration du procès de travail dans les années 70 qu'on a, disons, dans la presse mainstream, dans les manuels scolaires et tout ça, voilà, présenté de manière extrêmement positive comme étant voilà, une restructuration qui donne plus d'autonomie aux salariés, qui alors maintenant c'est un discours qui a quand même perdu de sa vigueur, mais disons que au moins encore dans des manuels scolaires d'il y a quelques années et à mon avis encore aujourd'hui, on présentait ça comme une restructuration qui avait entendu finalement les griefs des travailleurs dans les années 68 et qui voilà, donnait plus d'autonomie, voilà, qui était qualitative et pas que quantitative, etc., etc. Est-ce que tu peux nous parler un peu du coup du post-fordisme ?
Eh ben, c'est le fordisme empire, c'est-à-dire ça n'a aucun rapport avec une recomposition du travail. C'était un terme qui était très en vogue à la fin des années 70 et ensuite où des armées de sociologues et d'économistes ont parlé de ça, mais c'est resté de l'ordre du discours idéologique et de l'expérience tout à fait marginale dans certaines usines, je crois chez Volvo notamment. De façon générale, les patrons ont récupéré le pouvoir dans les usines après la crise d'indiscipline des années 70, et des années 68, 65 à 75, comme on disait tout à l'heure, ont récupéré le pouvoir en délocalisant, et en automatisant. Ils ont fait d'abord la grève des investissements sur place, c'est-à-dire qu'ils ont cessé d'agrandir les capacités de production dans des endroits comme Détroit ou Boulogne-Billancourt ou des choses comme ça. Et ils ont délocalisé, par exemple, dans le sud des États-Unis, où ils ont trouvé une main-d'œuvre moins chère et plus disciplinée. Mais surtout, ce qu'ils ont fait, c'est de délocaliser en Asie. Et en Asie, le post-fordisme, c'est le fordisme, tout simplement. Hein. Il n'y a pas de prodige d'automatisation et de choses comme ça dans les usines d'automobiles ou autres, ou d'électroménagers, en Chine ou en Asie du Sud-Est, du moins à cette époque. On commence à en parler maintenant parce que on y reviendra tout à l'heure. Mais donc, pour ce qui est de la fin des années 70, est rapidement apparu un chômage assez massif qui, instantanément, a discipliné les ouvriers et a permis surtout de créer une armée de réserve où les capitalistes pouvaient remplacer les ouvriers qui ne leur convenaient plus. Et simultanément, ils ont introduit des méthodes plus automatique et plus tardivement, alors ça on en est presque à la fin du siècle, l'utilisation des techniques de l'informatique et de la communication. Et c'est surtout là que ça a permis d'obtenir un contrôle beaucoup plus resserré des travailleurs à la production. La technique des groupes de travail a été beaucoup porté au nu, que ça donnait aux ouvriers qu'on formait en petits groupes de 4 ou 5, regroupés pour faire un ensemble de tâches plus important, que c'était une espèce de recomposition du travail et que ça donnait de l'autonomie aux travailleurs et qu'ils seraient plus contents. En fait, c'est pas ça du tout. On assigne aux groupes de travail des tâches qui dépassent ses capacités, ça c'est la base du management, et on fait de telle sorte que les membres du groupe se surveillent entre eux. Par exemple, dans une usine toyotisée du nord de la France,
celle de Valenciennes,
je ne sais plus, une usine de Toyota,
oui, de Valenciennes, c'est oui, ça.
Peut-être, je ne sais pas. Et le taux d'occupation, le taux de fonctionnement de la chaîne s'affiche en permanence, minute par minute, enfin instantanément, sur un panneau que tous les ouvriers voient de partout où ils sont dans l'atelier. Et si la chaîne s'arrête, le taux d'occupation, le taux d'emploi de la chaîne baisse. Et tout le monde sait qu'en dessous d'un certain seuil, 95%, 90%, je suppose que c'est variable, il y aura des heures supplémentaires obligatoires. Et donc, les gens n'aiment pas ça. apparemment. Et donc, si un ouvrier a un problème de qualité, il voit passer une pièce devant lui, ce qu'il doit faire pour intervenir, il ne peut pas le faire bien, c'est de mauvaise qualité, ça va poser des problèmes à l'arrivée. Il peut soit se débrouiller, soit laisser passer la pièce de mauvaise qualité, soit appuyer sur un bouton qu'il a devant lui et arrêter la chaîne. Et s'il arrête la chaîne, il a fait venir le chef et il explique au chef, voilà, il y a un problème, je ne peux pas m'en tirer, j'ai arrêté la chaîne, qu'est-ce qu'on fait ? Alors c'est la procédure presque réglementaire. Mais tout l'atelier voit que le taux d'occupation de la chaîne est en train de baisser. Et ce n'est pas comme ça qu'on se fait des copains. Donc, ou bien on laisse passer une pièce de mauvaise qualité et on vous retrouvera à la fin, parce que ce n'est pas anonyme, hein, tout est tracé à l'ouvrier près. Ou bien on arrête la chaîne et tout le monde se met à vous en vouloir parce qu'il va falloir venir samedi pour compléter. Ou bien la vraie solution que proposait par les patrons, c'est débrouillez-vous pour ne pas avoir de problème. Donc c'est les méthodes de management qu'il y a maintenant qui sont absolument classiques. On donne des ordres contradictoires, impossibles à réaliser, et on laisse le travailleur se débrouiller avec ça. Et quand il craque, on le remplace par un autre, parce qu'il y a une armée de réserve qui est très grande. Le post-fordisme, c'est donc ça, et le fordisme asiatique, ou les maquiladoras du Mexique, ou des choses comme ça. Ou dans certains endroits, le fordisme est vraiment bestial, sans grands investissements.
Oui, ce qui fait qu'on a parlé aussi de néo-taylorisme.
Oui, peut-être.
Dans certaines industries de service, on parle de McDonald's un petit peu comme un exemple de,
ah, oui, c'est possible,
de néo-taylorisme.
Oui, parce qu'il n'y a pas de chaîne. Encore que bientôt il y en aura une. Sûrement, je ne sais pas. Oui, je ne connaissais pas ça, mais c'est tout à fait ça. Oui, il y a des endroits où effectivement il n'y a pas de chaîne et les temps sont quand même très très mesurés. Dans les pays asiatiques, en Chine, j'ai un peu étudié la question. Le transfert du fordisme s'est fait de façon très violente, rapide, et entre les années 85 et 2005, donc c'est relativement court. Il y avait déjà des grandes usines, pas seulement automobiles, qui marchaient sur le modèle fordisme. Et comme il faut s'y attendre, les mêmes méthodes ont produit les mêmes effets, les mêmes causes ont produit les mêmes effets, c'est-à-dire qu'il y a eu des révoltes d'indiscipline, de sabotage, pas trop, mais parfois violentes, et puis des bagarres, qui ont une certaine spécificité cependant. Et qui ne ressemble pas à ce qui s'est passé dans les années 68. Et ça, ce sera peut-être à discuter un peu plus tard, si on a encore du temps, pour essayer de comprendre ce qui se passe maintenant, à l'époque actuelle. On en arrive à l'époque actuelle. D'une part, en Occident, enfin dans les pays centraux, on a des usines qui sont automatisées et informatisées à un point dont on se demande s'il laisse encore la moindre liberté aux travailleurs, ou si tout est contrôlé comme dans le rêve le plus fou de Taylor et de Ford. Par exemple, j'ai lu récemment une enquête sur les conditions de travail chez Amazon en Pologne et en Allemagne. Et c'est un groupe qu'on trouve sur Internet qui s'appelle le Angry Worker of the World et qui publie sur son site cette enquête. Et les méthodes de contrôle des travailleurs sont décrites, comment les travailleurs ont un bracelet qui est en même temps un scanner, qui est en liaison directe avec l'ordinateur central derrière lequel il y a des espèces de cyber-contremaîtres qui savent à tout moment si on s'arrête et de courir après les objets qui sont dans les immenses hangars de Amazon et qui vous rappellent à l'ordre instantanément. Et on se demande comment les travailleurs tiennent, mais en fait, la plupart ne tiennent pas, il y a un turnover important. Et alors que le turnover était un problème dans les années 68 où il y avait le plein emploi, maintenant c'est plutôt la solution. C'est-à-dire que les patrons ne veulent pas que les gens restent trop longtemps. Ils les usent et puis après ils les jettent. Et c'est un truc qui est vraiment connu. Donc on a ça d'un côté. Dans cette enquête sur Amazon, il y a un moment où l'intervieweur demande s'il y a des façons de tricher. Et le gars qui est interviewé dit oui, il y en a, mais en fait, ce qu'il décrit, c'est pas du tout de la triche, c'est plutôt une pratique qui est peut-être plus agréable pour passer la journée, mais qui revient à se faire baiser une fois de plus. Il dit que chaque matin, quand il arrive, sur son appareil qu'il porte au bras, là, il y a un objectif. Il doit faire 1000 paquets ou peu importe. Il a une norme. Et donc, à mi-journée, il se dit, si j'ai fait plus que la norme à mi-journée, l'après-midi, quand je suis fatigué, je pourrais travailler plus lentement et je rentrerai à la maison moins fatigué. Alors, pas de problème, il fait sa norme. Mais le patron, il le sait instantanément qu'il a fait plus que la moitié de journée à la mi-journée. Il a fait plus que la moitié de son travail. Et donc, il se dit, bon, bah, il le peut. Pourquoi il ne fait pas la même chose l'après-midi? Et donc, il va lui assigner une norme plus élevée pour qu'il travaille le matin et l'après-midi au même rythme. Donc, c'est une façon de dire, d'avouer au patron, enfin, de faire savoir au patron qu'il peut travailler plus vite que ce qu'on lui demande.
Donc, du coup, est-ce que c'est la fin des résistances au travail possible?
Alors, c'est la question. On va y revenir. Je voulais juste finir là-dessus pour montrer que avec les nouvelles technologies de l'information, tout ce que le travailleur peut essayer de gratter est presque instantanément donné à l'entreprise, qui sait que ça existe et qui le trouve. D'abord, il y a eu les groupes de travail au début des années 80, disons, quand il n'y avait pas encore une pareille informatique. Il y avait les groupes de travail où tout le monde se surveillait et finalement, c'était le patron qui récupérait les gains de productivité. Et maintenant, c'est l'informatique qui fait ça tout seul. Et il y a presque plus besoin de contremaître pour ça. C'est l'ordinateur qui le sait. Alors, ta question.
Bah, du coup, c'est on a vu qu'il y a eu une vague d'anti-travail dans les années 68. Aujourd'hui, avec la restructuration du procès de travail, dans un contexte de crise structurelle du capitalisme, dans un contexte de chômage massif, de chômage galopant, dans un contexte où la mobilité du capital fait que s'il n'est pas content dans un pays ou dans un endroit, il peut aller ailleurs, quelles sont les possibilités du coup de résistance au travail, ou est-ce qu'il n'y en a pas et que du coup la seule possibilité véritablement, ce serait du coup la révolution et la communisation?
C'est la bonne question et je crois qu'on n'y répondra pas ce soir parce que franchement, je ne sais pas quoi dire. Dans un texte qui est sur mon blog, qui s'appelle « Activités de crise et communication et communisation », j'ai affirmé, c'était en 2010, j'ai affirmé que l'anti-travail était revenu en force après une période de recul. Et je citais différents exemples qui allait dans le sens de ma thèse, et notamment les grèves émeutes du Bangladesh, dans l'industrie textile du Bangladesh. Alors, on m'a dit que c'était discutable, je veux bien en discuter, mais quelqu'un m'a critiqué sur Internet là-dessus, en faisant valoir que le Bangladesh était quand même très spécial comme pays, et qu'on ne pouvait pas comparer avec ce qui s'est passé en Occident 30 ou 40 ans plus tôt. En fait, je ne suis pas sûr que l'argument est très bon, parce que justement, c'est parce qu'il y avait des révoltes dans les pays centraux que les patrons ont emmené les chaînes fordistes classiques dans des pays où la main-d'œuvre était moins chère et serait plus facile à discipliner, notamment à cause de l'importance d'une grande réserve de main-d'œuvre. Au Bangladesh, ces grandes réserves de chômeurs. En Chine, c'était toutes les campagnes avec les excédents de population rurale qu'on y trouvait par millions. Moi, je pense que le fait que des processus tayloristes ou fordistes soient transférés dans des pays de ce type-là ne change pas la problématique. C'est-à-dire que, bien sûr, les ouvrières, parce que c'est surtout des femmes, les ouvrières du textile du Bangladesh sont contentes d'avoir du travail, puisqu'il faut qu'elles travaillent, et que, autre chose, les salaires misérables qu'on donne à ces femmes-là sont parmi les meilleurs revenus pour cette catégorie de population. C'est-à-dire, ils sont à quelque chose comme 50 dollars de l'heure, par mois, pardon, par mois. Et...
Pas de l'heure, non.
Non, non, pas de l'heure. Par mois. Et donc, c'est considéré comme un bon revenu. Enfin,
un revenu de survie, quoi.
Pas bon ou mauvais, mais ce qu'il y a de mieux. Donc, elles y vont. Mais en même temps, quand elles se révoltent, et les hommes pareils, quand il y a révolte, eh ben, ils s'expriment spontanément et naturellement par la destruction. Parce que le travail qui les occupe n'a pas de qualification, n'a pas d'intérêt, et parce que ils ne se projettent absolument pas dans une activité de ce type sans les patrons. C'est pas leur travail, c'est le travail de leurs patrons. C'est eux qui le font, mais c'est le travail des patrons. Et donc, quand ils se révoltent contre leurs patrons, ils se révoltent contre leur travail aussi.
Et pas tellement pour l'autogestion, du coup.
Ah non, alors ça, on va en parler aussi. C'est une des caractéristiques. Quand j'ai regardé un peu ce qui s'était passé en Chine, jusque dans les années 2006-2007, et j'ai re-regardé après, il y a eu beaucoup de bagarres, de révoltes, d'ouvriers contre la discipline, contre les conditions de dortoir, parce que là-bas, beaucoup d'ouvriers vivent dans des dortoirs qui sont fournis par la direction. Dans toutes ces bagarres qu'il y a eu, il y a eu aussi des manifs contre... Alors, c'est un peu autre chose. Il y a eu des moments où il y avait des reculs de la conjoncture. En ce moment, c'en est un. Où des patrons qui avaient des usines de textile notamment, ou de jouets, ou de choses qui ne demandent pas des gros investissements en capital fixe, prenaient la clé des champs en laissant des impayés de salaire. Parfois très important. Quand les ouvriers se retrouvaient seuls devant l'usine, ils allaient aux autorités du coin, la mairie, la préfecture, pour demander qu'ils fassent quelque chose et qu'ils règlent les salaires. Il y a eu des endroits où les autorités, les pouvoirs provinciaux, par exemple, ont créé des fonds de sauvetage parce qu'ils préféraient donner un peu d'argent aux ouvriers pour qu'ils s'étaient tranquilles plutôt que de voir des grandes manifs se dérouler dans les villes. C'est quelque chose qui n'est pas tellement admis en Chine, les manifs. Et devant toutes ces usines abandonnées, où les procès de travail sont relativement simples, pas très techniques, sans machines très perfectionnées, on n'a jamais vu une tendance, enfin je n'ai jamais vu, une tentative autogestionnaire, comme il y avait eu par exemple en Argentine, dans des usines un peu symboliques. Mais je pense que c'est un truc très caractéristique du capitalisme d'aujourd'hui. Parce qu'ils sont capables certainement de fabriquer des jouets, mais toute la logistique qui va avec, ils n'en ont pas la maîtrise. C'est-à-dire que sans doute 90% de leur production utilise des matières premières qui viennent de l'étranger, et expédie des produits finis qui partent à l'étranger. Et ça, c'est tout à fait autre chose. Hein. Et donc, c'est des sous-traitants. Et c'est plus du tout la même chose que autogérer un atelier simple où le marché est local. C'est,
oui, bien sûr, ça me fait penser aussi un peu à c'est d'autres conditions, mais la révolution portugaise de 1974-1975, où il y a eu des tentatives d'autogestion et ils se sont retrouvés en fait pris dans une chaîne logistique qu'ils ne maîtrisaient pas du tout, et finalement l'autogestion n'a pas du tout marché, parce qu'ils ne maîtrisaient pas l'amont, ils ne maîtrisaient pas l'aval, et finalement ils se sont fait avoir.
C'est tout à fait caractéristique, et là c'est à l'échelle du monde, je pense que c'était moins mondialisé.
Bah, bien sûr, le Portugal. Ouais.
Donc en Chine, on a assisté à différentes formes d'indiscipline, j'ai quelques exemples, mais c'est peut-être pas intéressant de s'arrêter là-dessus, vu le temps qui nous reste. Et ce qui est important de dire, c'est que il n'y a pas eu deux choses. D'une part, il n'y a pas eu de tentative autogestionnaire. Et d'autre part, l'indiscipline n'est qu'exceptionnellement entrée dans les ateliers. Alors, il y a eu des vagues de grève. Il y a eu, que je cite dans mon bouquin, des phases où les ouvriers étaient assez indisciplinés. Ça faisait un peu penser à l'Italie. Où il y en avait un qui, à la chaîne, criait grève. Et puis, tout le monde s'arrêtait. Et puis, c'était la merde. Et c'était tout à fait inhabituel en Chine. Mais ça ne s'est pas développé à un niveau comme ça a été dans les pays centraux dans les années 68. Donc, l'anti-travail, en quelque sorte, est surtout en Chine, surtout resté à l'extérieur des usines. C'est-à-dire dans les cantines, dans les dortoirs qui ont été saccagés plusieurs fois, dans plein d'exemples. Tout le monde connaît ces exemples-là, je pense. De sorte qu'on est en droit de se demander si... l'anti-travail tel qu'on l'a connu il y a 40 ans va revenir et quelles sont les conditions pour qu'éventuellement il revienne. Je n'ai pas la réponse à la question qui, en fait, s'inscrit dans une question plus générale. Quand on regarde les luttes actuelles, surtout dans les pays centraux, on voit qu'elles touchent très peu les travailleurs de la production. Donc ce sont des luttes qui tournent autour de la production, comme j'ai dit tout à l'heure pour la Chine, mais aussi en Occident, des luttes en France qu'on a eues par exemple autour des retraites. Les conflits sont très peu entrés dans la production et quand ils l'ont fait, ça a été de façon plutôt corporatiste et on n'a pas vu les ouvriers des entreprises privées cesser le travail en masse pour défendre leur retraite ou les retraites des autres d'ailleurs. Pour l'instant, il y a ce blocage-là et je pense que ça devrait faire l'objet d'une autre émission que d'essayer de trouver qu'est-ce qui pourrait faire sauter ce blocage-là. Quand on a évoqué Amazon ou d'autres entreprises de ce type, on a vu que les conditions de travail étaient abominables et on ne comprend pas pourquoi ça ne saute pas. Et en fait, si, on finit par comprendre à cause du chômage et que les gens sont prêts à faire des kilomètres et plein de choses pour obtenir des salaires de merde. Amazon raconte que, enfin, l'enquête sur Amazon que j'ai lu raconte que, aux périodes des fêtes, quand il faut vraiment bourrer les expéditions, Amazon fait venir par autocar entier des travailleurs du Portugal, d'Espagne, en Pologne. Et c'est étonnant, quoi. Et les gens viennent, ils sont là pour quelques semaines, peut-être quelques mois. Il y a des dortoirs, des logements communs. Et ils n'ont pas besoin de chercher un logement eux-mêmes, qui sont fliqués, pour voir qu'il y a de la discipline et tout ça. Et donc les gens, ils sont tellement dans la merde en Espagne ou au Portugal qu'ils montent se faire 6 semaines d'Amazon, puis ça leur fait un petit pécule. C'est ça qui fait qu'ils ne se trouvent personne pour dire « Tiens, merde, j'en ai marre », et qu'ils débranchent l'ordinateur. Tu vois, parce qu'en fait, l'anti-travail, ça va être ça, hein. Ça va être de débrancher les ordinateurs et d'empêcher ce contrôle instantané. Je n'ai pas entendu parler de choses comme ça. Il y a eu une grève en Amérique, aux États-Unis, une grève assez longue et assez massive chez un fournisseur de téléphonie qui s'appelle Verizon. Et on a signalé des câbles coupés. Qui ont coupé de téléphone des bourgades entières, enfin, mais j'en sais pas plus, et c'est plutôt un sabotage à la Pouget qu'un sabotage anti-travail, ça. C'est-à-dire que ça vient au soutien d'une grève, et puis le câble, c'est très facile de le recoudre et tout ça.
Mais peut-être qu'avec disons l'aggravation de la crise du capitalisme, et le fait qu'à un moment, c'est déjà insupportable, mais donc ça va être encore moins supportable,
oui.
Peut-être qu'il pourrait y avoir une espèce de rupture relativement rapide, mais on n'en sait rien.
Bah, moi, j'ai pas d'idée sur la question pour le moment. Je ne vois pas de symptômes, de manifestations parcellaires. À part des manifestations de révolte ponctuelles qui continuent de dire la même chose. L'anti-travail, ce n'est pas la révolution. L'anti-travail, c'est juste une pratique de lutte qui annonce que si le prolétariat fait la révolution un jour, il ne la fera pas comme classe du travail hégémonique. Il ne la fera pas comme tout le monde au travail, les propriétaires aussi, et la dictature généralisée du travail. Il dit quelque chose d'autre. Il dit que il produit de la valeur, il valorise le capital, mais c'est pas une activité qui va sauver la société. Derrière, alors pour employer la terminologie marxiste classique, avec laquelle je suis plus entièrement d'accord, derrière le travail abstrait qui produit la valeur, il n'y a plus de travail concret. Les prolétaires, ils ne savent rien faire. Ils ne savent pas réparer leur bagnole ou mal. Et ils ont, on leur apprend plus ces choses-là. Ils sont formés en 3 jours et puis ils sont mis au travail. Alors qu'avant, c'était des années de formation. Avant, au siècle dernier. Tout ça. Et donc, l'anti-travail continue à dire ça sous des formes marginales. Donc, il n'y a que, à ma connaissance, il n'y a que le cas du Bangladesh où on a trouvé des destructions massives de moyens de production par des ouvriers qui ont besoin de travail. C'est ça le paradoxe. Des ouvriers et des ouvrières surtout. Les gens ont besoin de travail, déjà à l'époque, ils avaient besoin de travail, et tout, mais ils cassaient les usines. Alors je pense qu'au Bangladesh, il faudrait regarder ça de plus près, il y a une possibilité d'explication. C'est que les usines sont relativement petites et très nombreuses. Les ouvriers en cas 7 ou 8, pendant une grève, ils mettent le feu, ils détruisent les machines. Enfin, il y a des trucs qui sont vraiment violents. Hein. Et peut-être qu'ils pensent que ça ne va pas remettre en cause leur travail parce qu'il y a tellement d'usines, ils trouveront à se faire embaucher ailleurs. Peut-être, mais j'ai aucune indication dans ce sens-là. Mais parce que le paradoxe est quand même violent. Hein. C'est tellement difficile d'avoir du travail. Les gens qui travaillent dans les usines textiles sortent des bidonvilles du coin. Ils n'ont vraiment rien. Et donc, pour eux, c'est très important, ce revenu. Et malgré ça, ils n'hésitent pas. Et enfin, c'est très fréquent, hein, mettre le feu à l'usine. Et puis après, bon, elle est sans doute réparable, mais ça prend du temps. Donc voilà, c'est ça. C'est pas nouveau, c'est pas une conclusion bien glorieuse. La principale question, c'est quelles vont être les conditions pour qu'on assiste à une révolte prolétarienne massive dans la sphère de la production, puisque tout dépend de là.
Bon, et ben sur cette interrogation, qu'on ne peut pas résoudre maintenant, mais auquel il faut s'atteler à réfléchir. On va conclure sur cette émission d'histoire des résistances au travail et de l'anti-travail. Et avec, je pense, un des points centraux de cette émission, ça a été justement de montrer que l'histoire du procès de travail, des résistances au travail et de l'anti-travail, c'est pas l'éternel retour du même, mais qu'il faut être très attentif à la périodisation, le ludisme, alors qu'on a tendance aujourd'hui beaucoup à prendre le ludisme, le projeter sur aujourd'hui. Non, les conditions, enfin, le mode de production capitaliste, c'est une dynamique historique qui ne revient jamais au même, et il y a aussi des dynamiques pour toi de contradictions de classe, et ça génère jamais la même situation. Et du coup, l'histoire de l'anti-travail, des résistances au travail, nous offre un point de recul sur la situation actuelle, mais ne nous disent pas ce qui va se passer et ce qui se passe. Mais du coup, c'est à mon avis, je pense, un des intérêts de la communisation et de la critique de la valeur de manière différente, c'est clair. Mais justement, d'essayer de repenser des situations, de penser, disons, la situation historique comme une situation historique nouvelle et pas comme l'éternel retour de la même société de classe capitaliste, comme encore beaucoup de groupes, de théories.
Simplement pour vous dire que ce qui vous attend, ça peut être à la fois quelque chose de, ça va être quelque chose de très dur, mais de très beau si vous le réussissez. La seule façon de le réussir, c'est que, en fait, vous êtes rentré en guerre aujourd'hui. C'est pas simplement une lutte, c'est la guerre. Ils vont essayer de vous faire croire que vous coûtez trop cher. On vous explique que si vous êtes dehors, c'est à cause du coût du travail. Quelle belle blague! Depuis quand les ouvriers coûtent de l'argent au patron?
Protéger le climat et pas le capital! Protéger le climat et pas le capital! Protéger le climat! Et pas le capital, protéger le climat, et pas le capital, protéger le climat.
problème, c'est que on a une politique qui est décalée sur ce qu'est la société réelle, quoi. Et, enfin, la société de la rue, la société du quartier, la société de la ville. Ouais, c'est sûr, j'ai fait passer des gens, mais moi, je m'en fous de leur loi. Enfin, c'est pas que je m'en fous de leur loi, c'est que je vais pas demander les papiers aux gens de savoir s'ils ont leurs papiers, ils ont pas leurs papiers. Si la loi, elle, c'est ça, ben, il faut changer les lois, puis c'est tout, quoi.
Allez, vous écoutez les Régors chaque semaine sur l'écho des Garrigues à Montpellier, Canal Sud à Toulouse et bien évidemment Radio Primitive sur Reims sur cette émission réalisée. Vous pouvez retrouver nos émissions sur le blog Le Chat Noir 51 et sur le site oclibertaire.l'autre.net.